Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Clotilde Seille en votre compagnie pour vous présenter l'émission des livres plein les oreilles qui se consacre exclusivement aux livres audio, qu'ils soient faits ici chez Vues et Voix ou partout sur la planète francophone, là où les livres s'écoutent. Alors aujourd'hui à cette émission, peu de gens savent être vieux, c'est pas moi qui le dis, c'est La Rochefoucauld. Et ce sont ces mots qui ouvrent le livre Vieillir, la belle affaire, co-signé par Stéphane Lemire et Jacques Beaulieu. La narration ici chez Vues et Voix a été faite par Jacques Lucien. J'ai pensé, après les moments difficiles, c'est un euphémisme, disons catastrophique, que nos personnes âgées ont vécu pendant le confinement et vivent encore, que ce serait une bonne idée de vous présenter ce livre aujourd'hui en compagnie de messieurs Lemire et Lucier. La vieillesse, pour beaucoup d'entre nous, c'est quand? C'est demain, après-demain? Bientôt en tout cas. Alors parlons-en et préparons-nous. Je pense que ce livre peut contribuer à nous y aider. Et également à l'émission, on va retrouver avec grand plaisir l'amie Claudia Larochelle, animatrice littéraire, journaliste, autrice, porte-parole de Vues et Voix et chroniqueuse à l'émission des livres plein les oreilles. Aujourd'hui, elle a pour nous un coup de cœur et un coup de gueule. Et oui, les déceptions, ça arrive même quand on s'appelle Joël Dicker. De mon côté, en toute fin d'émission, je voudrais vous faire entendre l'inoubliable voix de Jeanne Moreau quand elle se faisait lectrice, l'inoubliable histoire du Guépard, aujourd'hui en livre audio et lu par l'incroyable Denis Podalydès, et puis également un livre audio, l'incontournable Petit Prince, qui a maintenant, figurez-vous, sa journée internationale, c'était il y a quelques jours. Alors avant d'accueillir mes premiers invités, auteurs de Vieillir, la belle affaire, difficile de ne pas ouvrir cette émission avec la chanson qui a inspiré le titre de ce livre.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands à cause des Anglais. Mourir baiser intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse. Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter, mourir de se découdre. Ou terminer sa course la nuit de ses cent ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, oh, vieillir. Mourir, mourir de rire, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'il n'ose plus trop rire. Mourir de faire le pitre pour dérider le désert. Mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre. Mourir sous le manteau, tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme. Ou terminer sa course la nuit de ses cent ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument. Mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe. rire insignifiant au fond d'une tisane entre un médicament et un fruit qui se fane ou terminer sa course la nuit de ses mille ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ourse, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir la belle affaire, mais vieillir, oh.
La vieillesse est un paradoxe et un tabou dans notre société. Un paradoxe, car si tout un chacun veut vivre le plus longtemps possible, personne ne voudrait vieillir. Ce moment de la vie représente un tabou, parce qu'il s'agit d'un sujet qu'on évite le plus souvent d'aborder. Bien sûr, il y a eu des guides de préparation à la retraite, tant sur le plan financier que social. Mais le présent ouvrage regarde plus loin. Il ne s'agit plus ici de savoir ce que nous pouvons faire durant les années qui suivent le travail, mais bien de permettre au plus grand nombre un vieillissement en santé, voire de rendre possible ce que certains qualifient de vieillissement réussi.
Autrement dit, vous l'aurez compris, c'est un livre qui ne peut faire que du bien. Parfois du mal aussi, parce que on entend là forcément quelques vérités sur la vieillesse qui ne sont pas forcément toujours très plaisantes à entendre quand on est à l'avant-veille de la chose. Mais c'est surtout aussi un livre très rassurant, très fouillé, très entier que nous offrent Stéphane Lemire et Jacques Beaulieu. Et c'est Stéphane Lemire qui est là avec nous aujourd'hui, ainsi que Jacques Lussier. Je vais revenir sur Monsieur Lussier. Bonjour Stéphane Lemire.
Bonjour.
Stéphane, vous êtes un éminent gériatre, comme on dit. Vous êtes un spécialiste en gériatrie. Vous êtes également le président de la Fondation Age. Vous êtes un chercheur aussi associé émérite. Bref, ça fait belle lurette que vous vous penchez sur ce qu'on appelle aussi le troisième âge.
Émérite ou autre, là, peut-être pas, mais quand même,
une certaine
implication, disons, pour moi, c'est une passion, la santé des aînés, puis la voix qu'on présente dans le livre, c'est celle de quelqu'un qui veut mettre un terme, si on veut, à la façon dont on considère le vieillissement.
Oui.
On met tout et rien sur le dos du vieillissement, puis malheureusement, même en 2020, il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer notre situation, se donner un pouvoir d'agir, comme on dit dans le titre.
Oui.
Puis c'est vraiment pour outiller les gens qu'on a écrit, moi et Monsieur
Beaulieu,
ce livre-là.
En page 12, moi, il y a ce mot que j'ai tellement aimé lire. On souhaite contribuer, écrivez-vous, à vous ravigoter. D'abord, je ne pensais pas que ce mot-là était utilisé au Québec. Moi, je sais qu'on l'utilise beaucoup en France, mais au Québec, je ne savais pas qu'on l'utilisait. Donc, apparemment, oui, et ça me plaît. Rapidement, le R de ravigoter pour relaxer, réseauter. Le A pour alimentation saine, équilibrée, variée. Le V pour le vieillissement actif. Le I pour intervenir sur l'iatrogénèse. Et là, va falloir que vous m'éclairiez.
La iatrogénèse, c'est lorsqu'on fait une intervention chez une personne et qui a des effets défavorables, des effets indésirables. Ça peut être le cas, par exemple, avec des médicaments.
C'est ça.
Lorsqu'on souffre d'effets secondaires importants, ça peut être le cas d'une procédure chez un aîné un peu fragile, chez qui on ferait une chirurgie, par exemple, pour améliorer sa situation. Ben, il est possible qu'au contraire, on la détériore.
Le G, l'approche globale. L'approche globale, holistique. Le O, nous sommes toujours dans le verbe ravigoter, objectif fonctionnel. Le T, trouver la cause. Le E, établir un plan de soins. Et le R, réadapter et récompenser.
T'sais, c'est souvent ça qui est difficile. On peut... chez une personne qui a des difficultés cognitives, avoir de la difficulté à gérer des comportements difficiles en raison de la maladie, peut investir d'efforts et d'énergie pour régler la situation alors que c'est très simple en général. Il y a toutes sortes de méthodes qui ne sont pas pharmacologiques, mais en même temps, on va mettre d'immenses ressources lorsque cette personne-là, cette même personne-là, se présente à l'urgence avec une crise cardiaque. Il faut déployer des efforts immense, investir beaucoup d'argent pour sauver la vie, mais on ne mettra pas nécessairement l'emphase sur ajouter de la vie. L'équilibre, je pense que vous avez touché le mot juste, là, Monsieur Lucier.
Oui, l'équilibre.
C'est vraiment l'équilibre de la clé. Mmh. Puis, on essaie. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître la réponse au désir de tout le monde. C'est des décisions souvent personnelles. Puis, j'essaie de le faire. On essaie, dans le livre, de le faire ressortir un peu, là. Mais c'est des décisions personnelles. Mmh. Toutes ces décisions-là, est-ce qu'on préfère vivre le plus longtemps possible dans la grosse misère, sans qualité de vie? Mmh. Est-ce qu'on préfère privilégier plus de qualité de vie, moins de durée de vie? C'est toutes des questions qu'il faut se poser, mais pour se poser ces questions-là...
Il faut se les poser avant, non?
Il faut avoir un peu de... Oui, il faut se les poser avant.
Il faut se les poser avant.
Des formations,
bien sûr.
Totalement.
Les grands thèmes qui sont évoqués dans ce livre-là, et encore une fois, je le répète, c'est fouillé. On est dans un livre documenté, fouillé, travaillé. On n'est pas dans un livre léger sur la vieillesse, on s'entend. Je ne veux faire de commentaires négatifs à personne, mais là, on s'entend que c'est un livre scientifique, mais en même temps très vulgarisé. On comprend absolument tout ce qui est dit. On comprend d'ailleurs tellement, et je le disais au début, c'est un livre rassurant. Par exemple, l'un des grands thèmes abordés, c'est le premier, c'est l'état cognitif, où évidemment il est question de la maladie d'Alzheimer, entre autres, et il est question de ces pertes de mémoire que nous vivons tous, que nous commençons à vivre relativement de bonne heure, et je trouve que ces pages-là sont tellement éloquentes et vont rassurer tellement de monde. Moi, la première...
Avec M. Beaulieu, on essaie vraiment d'expliquer le plus clairement possible quelles sont les manifestations du vieillissement normal, comment on peut les distinguer d'un vieillissement anormal. Ça, c'est une première étape. Ça peut être normal et on est rassuré.
Oui.
L'autre extrême, ça peut être la maladie d'Alzheimer et là, on est moins rassuré, mais en même temps, c'est un désastre pour plusieurs. C'est très difficile, ces maladies-là, pour lesquelles il n'y a pas de traitement très efficace. En même temps, même quand il n'y a pas de traitement médicamenteux très efficace, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie de la personne
de vie, bien
qui
sûr.
A les problèmes quotidiens. Mais c'est tout son entourage. Le vieillissement normal, même quand on est dans le domaine du vieillissement normal, si une personne prenait, par exemple, des médicaments pour dormir,
oui, c'est pas pareil.
Les médicaments pour dormir amènent ces difficultés-là.
Bien
sûr. Si le médicament pour dormir amène les difficultés ou amplifie le vieillissement normal, bien, il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est
bien
mieux.
Sûr.
Moi, ce qui est dans un des chapitres.
Exactement, et c'était ce que je voulais dire par cet exemple-là, qui aurait pu d'ailleurs ne pas être le mien, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là, c'est que lisez ou écoutez ce livre parce qu'il répond à des questions. Et encore une fois, pas de façon bébête, et pas de mais de façon scientifique et intelligente. Jacques Lucier, je me tourne vers vous. Je pense qu'on est à peu près de la même génération, c'est-à-dire que nous, c'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain. Hein. Bon, on y va quand même.
Moi, j'ai eu 60 ans en mars, alors le livre m'intéressait au plus haut point.
Bon, ben je suis votre aîné, cher monsieur. Alors, Jacques,
ce sont des embryons de personnes âgées.
C'est ça, exactement. Ben, vous savez qu'à une époque, on était vieux, quoi, et c'est vous-même qui le dites, hein, à 50 ans.
Oui.
On était vieux à 50 ans, et c'est il n'y a pas longtemps, là. C'est fou, ça.
Oui, tout à fait. Il y a eu des progrès immenses qui ont été faits au 20e siècle, puis ça continue même encore. Il faut quand même voir que les plus chanceux d'entre nous vieillissent, sont plus vieux, en guillemets, à peut-être 75 ans, 80 ans, quand les gens
sont
actifs.
Alors, Jacques...
Il y a beaucoup de déterminants. Mais je vous laisse aller, puis on reviendra sur la pauvreté.
Oui,
et
exactement. Jacques Lucier, vous, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a touché le plus parce que vous qui l'avez lu à haute voix, hein, je le rappelle,
et qu'il l'a répété chez soi.
En plus...
Ben oui, parce que une lecture, une petite parenthèse pour les auditeurs, une lecture, quelle qu'elle soit, surtout de cet ordre-là, parce que c'est pas un roman, c'est un ouvrage de référence,
un ouvrage
presque scientifique, mais je veux pas faire peur aux gens que le mot scientifique, le docteur va peut-être être d'accord avec moi, c'est un ouvrage pour tous, qui est extrêmement bien écrit, d'ailleurs, au niveau de la forme. Là, le comédien parle de la forme, mais ça se lit très bien parce que le rythme est là, la ponctuation est parfaite.
Oui.
Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir et je dirais même de facilité à tomber dedans. Et au niveau du contenu, écoutez, c'est difficile pour moi de faire un choix parce que j'ai
lu
tellement de choses.
Oui. Dans chaque thème.
J'ai lu trois fois.
Trois fois.
Je l'ai lu deux fois chez moi. Chaque fois, j'enregistre environ 10 à 15 pages. Ça semble peu, mais ça prend beaucoup.
Ça prend ça. Ça prend ça.
Ça.
Vous savez ce que je vous propose tous les deux? On va entendre un petit montage que j'ai fait avec quelques extraits de ce livre-là, lu par vous, Jacques Lussier. Et j'ai intégré un petit peu de musique là-dedans parce que c'est une chanson, moi, qui me bouleverse. Mais vous allez comprendre. Allez.
OK.
J'ai le derrière qui grossit, j'ai ma route qui se rétrécit, et ça me rend, je vous le dis, là, ma mère, je te sais. Cette chaleur qui passe quand on m'embrasse, je suis vieille. J'ai les seins qui sont plus pareils, ils vont bientôt toucher la terre. Pourquoi faire? Pourtant, j'ai pas vraiment vu passer le temps, j'ai pas usé toutes mes affaires.
L'objectif ici est de vous permettre de poser les bonnes questions aux bonnes personnes afin de faire du vieillissement la plus belle affaire possible. En cas de problème, un professionnel de la santé devrait être en mesure de vous épauler. N'hésitez donc pas à y avoir recours.
Je vieillis, je me rapproche du paradis. Tous les jours, petit à petit, c'est mon enfance qui s'éloigne, loin derrière.
Ce livre n'aura pas la prétention d'apprendre au lecteur comment vieillir. Tout au plus, ces derniers pourront y trouver des réponses aux questions qui les préoccupent quant au vieillissement.
Je vieillis. J'ai la peau qui s'est flétrie, j'ai mes cheveux qui se raréfient, et ça me donne du vague à l'âme et le mal de mer.
Nous décrirons donc au début de chaque chapitre ce qu'il est normal de subir en vieillissant en ce qui concerne le thème abordé. Cela vous permettra de vous situer par rapport à ce qui est généralement attendu et de vous poser la question qui vous brûle les lèvres : suis-je normal ? La réponse étant oui, dans tous les cas. Cela devrait vous amener à vous poser une autre question fondamentale pour une bonne santé globale : comment améliorer ma situation ? En présence d'un vieillissement usuel, vous devrez mener une vie active et insister pour la continuer ainsi, même si certains vous diront que ce n'est plus de votre âge.
Chanson de Michel Jonas interprétée par Madame Diane Dufresne. Oui, je sais, c'est pas une chanson très réjouissante. Ça, c'est vrai. Elle est à l'inverse exactement de votre livre, Stéphane Lemire. Mais j'ai maintenant une question un petit peu embêtante, un petit peu embarrassante à vous poser. Quand on parle du mieux-être d'une personne âgée, je n'en reviens pas de voir à quel point les personnes âgées sont des gens seuls, sont des gens laissés à eux-mêmes. Comment penser bien-être quand on est une personne âgée et qu'on est tout seul à crever, comme un con, excusez-moi de le dire, mais dans, au fond d'un CHSLD, avec une vitrine en plus qui nous sépare du peu de gens qui viennent nous voir? Est-ce que ça, c'est pas un drame?
Poser la question, c'est un peu y répondre. L'impulsion pour écrire un livre comme ça, au-delà des liens avec M. Beaulieu qui m'a contacté, l'éditeur et tout ça, puis ça a été de voir à quel point tout ce que vous dites est juste en termes d'isolement. On connaît les statistiques, là. Je veux dire, il y en a plein, des statistiques sur l'isolement, comme quoi c'est nocif, comme quoi c'est très présent. Être laissé à soi-même, c'est quelque chose qu'on constate régulièrement. Vous avez mentionné que j'étais président de la Fondation Rare. J'ai créé la Fondation un peu sous la même impulsion. Puis, la Fondation, on s'occupe de développer des équipes de gériatrie sociale qu'on forme et on a un financement là, du ministère avec Mme Blais qui croit beaucoup à la gériatrie sociale. Puis, c'est une des grandes pistes d'avenir pour le maintien à domicile. Mais les années laissées à eux-mêmes, là, dans les équipes de gériatrie sociale, on forme les préposés qui vont à domicile faire le ménage. Et souvent, cette personne-là qui vient une fois par semaine, deux semaines...
C'est la seule qu'il voit.
C'est la seule personne qu'il voit de toute une semaine. C'est incroyable.
Quelle tristesse. Ouais. Moi, ça me... Jacques Lussier...
C'est ma tristesse.
Oui. Jacques?
Oui.
Moi, ça me...
J'en ai long à dire là-dessus.
Ah.
Go!
Et on n'a qu'une minute.
Non,
mais c'est pas grave. On va déborder, puis on coupera, Jacques.
J'ai une amie qui a 87 ans. C'est une grande amie. Je l'ai connue, j'avais 17 ans. J'en ai 60. Alors, ça fait 43 ans qu'on est amis. Elle est heureusement pas seule. Elle a son fils qui habite deux étages au-dessus. Mais elle vit seule. Et jusqu'à la pandémie, j'allais la voir chaque semaine et je passais 5-6 heures avec elle. Et j'ai énormément de plaisir avec elle. Et on joue au Scrabble. On parle de nos vies. Alors, je suis très, très proche d'elle et je vais rester proche jusqu'à sa mort. Elle dit que ça s'en vient, mais elle est en parfaite santé. Et il y a une dame chez moi, au rez-de-chaussée, j'habite un ciplet, il y a une dame qui a 90 ans qui vit seule. Puis elle est merveilleuse, ça fait 40 ans qu'elle vit là, dans son petit appartement de Verdun. Bien, je vais la voir de temps en temps. Et puis je sonne, puis je dis, Juliette, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je m'en vais à la pharmacie, je m'en vais à l'épicerie. Elle marche avec une marchette, mais elle vit seule. Et 90 ans. Et
oui.
Puis elle a toute sa tête.
Vous parlez de ça, là. Moi, ça résonne beaucoup avec toute la démarche qu'on a à la Fondation, à la gériatrie sociale. Je parlais justement tout à l'heure avec un de nos partenaires. On cherche une façon, on cherche un nom, une appellation pour ce qu'on appelle en ce moment le soutien civique. Soutien civique, c'est des gens comme vous, là. Des gens comme vous qui ont une amie âgée. Des gens comme vous qui ont une voisine très âgée puis qui est seule. Comment aider ces gens-là dans leur quotidien s'ils en ont besoin? Parce que les gens, quand ils ont besoin, ils ne demandent pas. Quand on offre ça...
Ça, c'est très américain.
On tisse des liens. Ces liens-là sont extrêmement importants. Ouais. On parlait d'isolement. L'isolement, c'est probablement plus que le tabagisme là, comme...
Stéphane Lemire et Jacques Lussier, de vous à moi, quand on me parle, moi, santé pour une personne âgée, et puis bouger un petit peu, même si c'est en marchette, bouger un petit peu, fiefté aussi, moi, quelqu'un qui est seul, est-ce qu'elle va avoir envie, elle? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle continuerait à vivre, à la limite? Je veux dire, il me semble que ça passe par la communication humaine. Alors, c'est pour ça que je me disais, oui, génial, ce bouquin, merveilleux pour, comme c'est écrit, vieillir, n'est-ce pas, la seule façon de vivre longtemps. Mais parfois, vivre longtemps, est-ce que c'est nécessaire? On peut se laisser là-dessus.
C'est toute une question.
On se laisse là-dessus?
Moi, j'ai aucun problème à ce que les gens vivent le moins longtemps possible s'ils le veulent. Ouais. Ce avec quoi j'ai du mal, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, avec tout ce qu'on sait sur la santé, ce avec quoi j'ai beaucoup de difficultés, là, c'est de dire, la personne prend cette décision-là là, de se laisser mourir quasiment, puis de plus rien faire, mais pas vraiment en connaissance de cause. C'est pas une décision éclairée parce que a lu un livre qui explique c'est quoi.
Non, c'est sûr, vous avez raison.
Rester en santé. Fait que moi, ce que je trouve terrible, c'est ça. C'est ça qui est terrible. Si une personne en a marre, puis qu'elle n'est pas en dépression, qu'elle a tous les services dont elle a besoin, qu'elle a des contacts réguliers avec des personnes significatives, qu'elle a des activités significatives, qu'elle aime faire, vous parliez du Scrabble tout à l'heure, M. Lucier, c'est une activité facilitée pour tout le monde en général. Puis vous parlez de ça, puis ça génère quand même beaucoup d'émotions, parce que ma grand-mère, qui est un peu l'instigatrice de ma passion pour les aînés, on joue au Scrabble régulièrement. Une fois par semaine, au moins, pendant longtemps, même à l'université, j'allais la voir pour faire ça avec elle.
C'est excellent pour la mémoire.
Tout à fait. C'est garder une stimulation intellectuelle, une stimulation sociale, une stimulation physique, c'est extrêmement important. C'est sûr que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est plus agréable, mais c'est parce qu'on vieillit qu'on est plus désagréable. En tout cas,
je comprends tout à fait. On vous a compris.
Vous parlez tantôt de votre amie de 87 ans. Ça veut pas dire que votre voisin pourrait être ami avec elle parce qu'il n'a pas grand de l'endurer. Mais ça, c'est la vie. Puis c'est pas tout le monde qui s'entend que tout le monde. Il faut juste pas faire de l'âgiste. C'est-à-dire, tous les vieux sont tannants. Tous les vieux sont désagréables.
Mais vous avez.
Ma grand-mère, là, j'ai été désagréable. Elle s'est adaptée à la vie moderne.
Mon ami, 87 ans, a tout un caractère. Elle a tout un caractère, alors vous tombez pile, docteur.
Vous savez.
Son caractère n'est pas nouveau, mais là, si elle a 87 ans, qu'elle a un caractère, on dit maudite vieille, elle est fatigante.
Oui, ben la maudite vieille de 62 ans va prendre la parole, messieurs, voilà. Alors, la maudite vieille de 62 ans, elle va vous dire que l'émission a débordé depuis très longtemps, mais que c'est pas grave. Et elle va vous remercier infiniment, Stéphane Lemire et Jacques Lucier, en tant qu'auteur, auteur pour le premier, lecteur pour le deuxième. Je suis contente qu'on ait eu cette discussion-là. Et je voudrais dire aux gens qui auraient peur que ce livre-là soit un peu trop scientifique, la preuve que non. Le chapitre 9, ça s'appelle « Et la vraie vie dans tout ça ». Moi, ça a été mon chapitre préféré et je vous remercie infiniment, Stéphane Lemire, d'avoir évoqué « La vraie vie dans tout ça ». Merci Jacques Lucier, comédien, narrateur, d'avoir lu ce bouquin, d'avoir pris soin de le préparer autant chez vous. Et merci à tous les deux et n'oubliez pas que la Fondation Âge, ça existe. Allez sur votre site internet, allez voir tout ce que cette fondation propose pour les personnes qui sont un peu plus âgés que nous en ce moment. C'est une vraie merveille. Merci beaucoup, messieurs Lemire et Lucier. Au revoir.
Bienvenue. Au revoir.
Merci à vous deux.
Au revoir. Des livres pleins les oreilles. Seconde partie. Alors, en seconde partie, on va retrouver avec joie la pétillante, l'inspirante Claudia Larochelle qui va présenter un coup de cœur et une déception. Et moi, je vous invite à réentendre la voix si particulière de Jeanne Moreau en tant que narratrice. Et je vous présente aussi l'histoire du guépard que Luchino Visconti avait mis en scène pour le cinéma. Vous vous souvenez peut-être un souvenir de 1963 avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale et Alain Delon. Quelle affiche et quelle histoire! C'est porté maintenant en livre audio par Denis Podalydès. Ça prenait un monstre de la narration pour lire ça, ils l'ont trouvé. Alors quoi d'autre? Il y a quelques jours, et ce pour la première fois, le 29 juin, on a célébré la Journée internationale du Petit Prince. Incroyable, hein? Ça donne envie de réécouter ce qui s'est fait ou ce qui se fait encore en livre audio autour de cette histoire magique. Je vous ai préparé un petit montage, vous me connaissez. Alors avant d'accueillir la très formidable Claudia Larochelle, Charles Aznavour.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux,
d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Évidemment, c'est dans la langue de Molière qu'on va y aller avec la formidable Claudia La Rochelle. Salut Claudia!
Allô Clotilde!
C'est un retour! Ben, pas en studio, hein. Bon, ça, on sait que pour l'instant... Quoique nous, on commence à prévoir déjà ça. Il y a une petite vitre, tout. Là, ça commence à venir. Là, à un moment donné, on va peut-être avoir l'occasion, à défaut de se faire une colle, au moins de pouvoir se parler de vive voix, en face à face.
J'aimerais ça.
Ben oui, hein.
Mais on sent que... Il y a comme un vent d'espoir. Justement, ouais. Aujourd'hui, Clotilde, il y avait un lancement de programmation de livres là, pour la nouvelle saison, puis Boréal présentait ses prochains titres.
Oui.
Alors, ça faisait du bien de voir que les auteurs ont écrit, ouais. On va voir des nouveautés, donc c'est génial.
Bon, tant mieux. Alors, aujourd'hui, Claudia,
oui.
Deux livres.
Oui.
Un qui est paru le 10 juin dernier, donc c'est vraiment tout récent. On va commencer par celui-là.
Bien bon.
On va dire ça comme ça. On commence par le bon ou par le pas bon? Moi, j'avais décidé de commencer par le bon. Et puis, à la limite, comme ça, on va prendre tout notre temps sur le bon. Puis, bah, sur le pas bon, on n'est peut-être pas obligé de rester là des heures, quoi. J'aime ça. Bon, non, d'abord, très sérieusement, parce que bon, c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui et celui-ci en bien, même si c'est un livre qui fait mal, Le consentement.
Oui, ça, c'est le bon.
Oui.
Mais c'est un livre qui fait mal. C'est bon, mais ça fait mal. C'est un livre qui a fait beaucoup parler, évidemment, parce que ça nous ramène à l'affaire Gabriel Matzneff, l'écrivain. Et elle, Vanessa Springora, elle est née le 16 mars 72. Alors, elle est éditrice, elle est écrivaine et réalisatrice aussi. Et donc, au début janvier 2020, elle a fait paraître le consentement, qui est un témoignage de sa relation qu'elle a eue alors qu'elle avait 14 ans, donc elle était mineure, c'était une petite fille. Elle a eu une relation avec Gabriel Matzneff. Aujourd'hui, elle a 47 ans et elle publie ce livre-là. Rapidement, Grasset a fait 5 réimpressions consécutives. Donc, 10 000 exemplaires se sont écoulés en 3 jours seulement. Et l'ouvrage a atteint la première place des ventes. Donc, c'est quand même dans la catégorie essai document, puis la deuxième place en format Kindle sur Amazon. Matzneff, qui est-il? Ben, c'est cet écrivain qui a écrit beaucoup de livres dans lesquels il avouait candidement qu'il avait eu des relations avec des jeunes garçons, des jeunes filles. Il parlait de l'avantage qu'il prenait à abuser de ces jeunes-là. Et sans vraiment se demander comment ces filles, ces jeunes garçons s'en sortent par la suite.
Oui.
Elle a décidé de briser le silence.
Oui.
Et c'est une éditrice, alors ça paraît aussi. Il y a une parfaite maîtrise de l'écriture. Elle parle, c'est un récit. Donc, elle raconte cette histoire-là, comment elle est survenue, cette histoire, dans sa vie, dans le réel. Et dès le départ, on comprend qu'elle n'a pas essayé de romancer, d'aménager ou bien de donner des couleurs là, à son histoire. Il n'y a pas de côté racoleur là, dans ce que je veux dire.
Non, c'est ça.
Et on le sent. Il y a une espèce de franchise complètement indéniable, désarmante aussi, puis elle s'installe dès les premières lignes. Oui. Donc, ce livre, évidemment, fait beaucoup jaser, hein, parce que, déjà, ben, c'était un scandale. Quand l'affaire Matinette est sortie, ben, on en a profité pour reparler, notamment du passage de Denise Bombardier à l'émission Apostrophe, où elle l'avait dit, mais Monsieur Matinette, me semblait pitoyable. Elle a parlé de ça ouvertement. Donc, on a parlé de cette affaire-là. Puis ça remet en question. On est revenu sur l'affaire MeToo, donc le mouvement MeToo aussi. Donc, ce livre-là a été fort bien accueilli parce qu'elle, une fois de plus, elle prenait l'espace public pour briser le silence. Ouais. Et cet homme-là est en fuite, là, je veux dire, il est plus dans le décor. J'ai pas les détails sur ce qui se passe avec lui, mais clairement, elle a pris la plume pour dénoncer ça et c'est complètement déroutant. Oui. Et elle le fait bien.
Alors, le livre commence quand elle est petite fille chez ses parents, hein, et c'est pas Rose non plus.
Non, c'est ça, c'est parce que elle a 5 ans quand ça commence, puis elle a pour modèle un couple violent, malsain aussi.
Bon, alors, pardon de t'interrompre, Claudia, mais c'est parce que, tu sais, souvent, les extraits qu'on nous propose, ce sont les débuts de livres. Bon, j'ignore pourquoi, en même temps, je comprends un peu, on veut rien déflorer. Mais là, au moins, ce qu'on va pouvoir entendre, et c'est lu par Gila Clara Kessous, c'est vraiment très, très bien lu, on va pouvoir entendre à quel point cette écriture-là est d'une franchise absolue en entendant ces premières lignes.
Comme dans les contes pour enfants où le merveilleux fait brusquement irruption dans le réel, la sexualité s'apparente dans mon imaginaire à un processus magique d'où naissent miraculeusement les bébés, et qui peut surgir à l'improviste dans la vie de tous les jours sous des formes souvent indéchiffrables. Provoquée ou accidentelle, la rencontre avec cette puissance énigmatique suscite très tôt chez l'enfant que je suis une curiosité persistante et terrifiée. À plusieurs reprises, je me présente dans la chambre de mes parents, au beau milieu de la nuit, en pleurs, debout dans l'encadrement de la porte, me plaignant d'un mal de ventre ou de tête, avec sans doute le but inconscient d'interrompre leurs ébats, pour les trouver le drap relevé jusqu'au menton, l'air idiot et étrangement coupable. L'image précédente, celle de leur corps entremêlé, je n'en garde pas la moindre trace. Elle est comme effacée de ma mémoire. Mes parents sont un jour convoqués par la directrice de l'école. Mon père ne vient pas, c'est ma mère qui écoute, inquiète, le récit de ma vie diurne. Votre fille tombe de sommeil. On dirait qu'elle ne dort pas la nuit. J'ai dû lui faire installer un lit de camp au fond de la classe. Que se passe-t-il? Elle m'a parlé de disputes très violentes entre son père et vous la nuit. Par ailleurs, une surveillante a remarqué que V se retrouvait souvent dans les toilettes des garçons à l'heure de la récréation. J'ai demandé à V ce qu'elle fabriquait. Elle m'a répondu avec le plus grand naturel « C'est pour aider David à faire pipi droit. Je lui tiens son zizi.
» Ah, c'est désarmant.
Ouais, c'est comme ça tout le temps. C'est ça qui est fulgurant, très désarmant, comme je le disais. Et donc, dans la première partie, c'est beaucoup ça, c'est l'enfance. À un moment donné, il y a l'apparition, parce que le père est absent, là, tu sais. Oui. Et la mère, elle est très occupée, très prise dans sa carrière, ses affaires. Donc, elle s'occupe très peu de sa fille, si ce n'est que pour l'amener avec elle dans ses jeux d'adulte, dans sa vie d'adulte. Et c'est là qu'elle fait la rencontre du fameux Matinef. Ouais, et il va donc très vite l'initier dans ses propres fantasmes et tout ça. Puis elle a décidé de briser le silence en 2013 quand il a remporté le Renaud Brie de Madinef. Donc c'est à ce moment-là, au moment de la réception de ce prix-là, qu'elle a été révoltée puis elle a eu envie de faire entendre sa version à elle. Donc le consentement, c'est aussi parce qu'elle précise notamment dans le livre qu'à l'époque, elle était consentante. Mais à 14 ans, qu'est-ce que ça vaut?
Ben non, c'est ça.
C'est pour ça qu'elle n'est pas allée en justice Donc, puis il était protégé par le milieu français, le milieu littéraire, le milieu des lettres. C'est un homme qui était amie.
Parce que tout le monde le savait aussi, ça, sûrement, autour de lui. Tu comprends? Ça me fait penser à l'affaire Jutras ici. Je veux dire, tout le monde est au courant. Ça s'arrête où? Et ça commence où, la complicité aussi? À cacher ses enfants quand on les invite à manger? Bravo.
Ah, c'est horrible. C'est pour ça, ça que quand on voit l'extrait à Apostrophe, puis que tout le monde, même les dames qui sont autour, ben il y en avait toujours peu dans ces émissions-là, mais quand il y en avait, là, même elles font un petit sourire, qu'il est comique, qu'il est hot, qu'il est bien, qu'il est formidable. Ouais. C'est très, très fâchant. Pourquoi Denise Bombardier, avec raison, elle s'est insurgée contre lui.
Absolument.
Donc l'écriture, elle est comme ça. C'est vraiment bien lu.
Mais c'est elle qu'on considère comme une hystérique. Alors, j'aimerais, là, parce que du coup, je suis contente qu'on ait passé la majorité du temps de ta chronique sur le consentement. Il nous reste à peu près 1 minute 30, peut-être, à peine, pour ne pas parler du dernier Joël Dicker, l'énigme de la chambre 622. Une déception à tous les niveaux, hein?
Ben, c'est pas mal une déception parce que Joël Dicker, là, il est sorti il s'est fait connaître, lui, il y a quelques années quand il a fait paraître la vérité sur l'affaire Harry Kemer. Oui. Moi, j'avais beaucoup aimé, j'en avais parlé de ce livre-là, je m'étais laissé prendre par l'intrigue. Bon, il avait connu un très, très grand succès. Ensuite, il y a eu deux autres titres, notamment le livre des Baltimore, que j'avais pas détesté, mais j'étais plutôt déçue parce que j'avais tellement aimé la vérité sur l'affaire Harry Kemer. Et là, l'énigme de la chambre 622, qu'il vient de faire paraître, qui s'annonçait comme étant le roman de votre été, mais je vous conseille pas de lire ce livre-là parce que vous serez certainement déçus. Même ceux qui ont plutôt envie de lire Dicker, il y a des choses qui sont complètement comme rétrograde dans son écriture, dans ses propos. J'ai trouvé que c'était, il y avait des propos qui étaient teintés de machisme, c'était dépassé. Et ça, on peut pas faire autrement que on l'observe, on le voit, c'est très, très, très évident. C'est surprenant dans un homme de 35 ans, là. C'est étonnant, là. Et on dirait qu'il est en décalage avec son époque. Ça se passe dans des milieux hyper aristocratique. Il y a eu un meurtre, là, oui, dans le milieu des affaires, et puis ça se passe en Suisse. Ouais. Mais on est complètement décalage avec le réel.
On a l'impression que Dicker a été l'homme d'un livre et qu'ensuite, il essaie de... En tout cas, je me mets pas à ça. J'aimerais pas être à sa place parce qu'il doit chercher comme un fou. Tu sais, le nombre dans La vérité sur l'affaire Harry Kemer, le nombre de fois où on le voit plancher, où on voit son héros plancher, travailler, et le jeune aussi... Et là, on a l'impression que c'est ça, mais sauf que lui, là, il n'arrive plus à rien. Écoute, j'ai un petit extrait. On va prendre le temps de l'écouter.
Ben oui.
Et je trouve qu'il est tellement éloquent dans l'évidence du rien.
Ah oui.
Tous les jours, je m'astreignais à la routine monacale qui était la mienne en phase d'écriture et qui se décomposait en 3 étapes indispensables. Me lever à l'aube, faire un jogging et écrire jusqu'au soir. C'est donc indirectement grâce à ce livre que je fis la connaissance de Sloane. Sloane était ma nouvelle voisine de palier. Depuis son récent emménagement, tous les habitants de l'immeuble parlaient d'elle. Pour ma part, je n'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. Jusqu'à ce matin où, de retour de ma séance de sport quotidienne, je la croisais pour la première fois. Elle revenait elle aussi d'un jogging et nous pénétrâmes ensemble dans l'immeuble. Je compris aussitôt pourquoi Sloane faisait l'unanimité parmi les voisins. C'était une jeune femme au charme désarmant. Nous nous contentâmes d'un salut poli avant de disparaître chacun dans notre appartement. Derrière ma porte, je restais béat. Cette brève rencontre avait suffi à me faire tomber un peu amoureux. Je n'eus bientôt plus qu'une idée en tête, faire la connaissance de Sloane.
Wow!
Puis là, vous allez faire la connaissance après Sloane de Anastasia, puis elle est donc belle, elle aussi. Ils sont juste belles. Ils ont rien à dire. Ils sont belles et jalouses. Un tantinet hystérique. Vous voyez, genre, donc c'est ça, ça m'a fait pomper. Je veux dire, ça n'a pas de sens.
Mais j'aime ça, Claudia. J'adore. C'est pour ça que, honnêtement, quand j'ai lu ton post sur Facebook, j'ai dit, je veux qu'elle vienne me parler. Bon, écoute, il faut que je te laisse parce que là, figure-toi qu'au programme, j'ai du Jeanne Moreau qu'on va entendre lire. J'ai une relecture du Guépard en livre audio, le livre qui avait donné lieu au film de Visconti, et
avec
Le Petit Prince.
Avec Claudia Cardinale.
Si, madame.
C'est pour ça que je m'appelle Claudia, à cause de Claudia dans le Guépard.
C'est pas vrai.
Ouais, et on est nés la même date, le 15 avril, toutes les deux.
Oh!
À quelques années d'intervalle.
C'est génial, Claudia, vraiment. Oui. On est sur la même longueur d'onde. Je t'embrasse. De loin, on peut encore tout faire. Et à bientôt. Salut.
Bye bye, Claudia.
Le balancement du rocking chair nous convie au plaisir de la chair.
Et cette chanson,
ça commence à être au point.
Oui, c'est vrai, hein, Albert. On y va?
Allons-y.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
La voix de Jeanne Moreau, et quelle voix! Jeanne Moreau, actrice, chanteuse et réalisatrice française, morte en juillet 2017, ça va faire exactement 3 ans à Paris. Cette voix qui s'est prêtée au jeu du livre audio en 1988, c'est sur Bouc d'Oreille, elle le lit du Zola.
Tout autour de l'île Vassilievski, en une vaste mer, s'étendait le monde. Là-bas, il y avait eu la guerre, puis la révolution. Mais dans la chaufferie, chez Trofim Ivanitch, la chaudière faisait toujours entendre le même grondement, le manomètre indiquait toujours 9 atmosphères. Seul le charbon avait changé. Avant, il y avait du Cardiff, à présent c'était du Donetsk. Le Donetsk s'effritait, la poussière noire envahissait tout, impossible de s'en défaire. Et l'on eût dit que cette même poussière noire avait imperceptiblement tout recouvert dans la maison aussi. Apparemment, rien n'avait changé. Ils continuaient à vivre tous les deux, sans enfants. Sophia, bien qu'elle approchât de la quarantaine, avait le même corps d'oiseau, léger et austère. Ses lèvres, qui semblaient closes, à jamais pour tout le monde, s'entrouvraient toujours la nuit, pour Trofim Ivanitch. Et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. Quoi, au juste? Ce n'était pas encore bien clair, cela n'avait pas encore pris la consistance des mots. C'est plus tard en automne que ce fut dit pour la première fois, et Sophia le marqua dans sa mémoire. C'était dans la nuit de samedi, il y avait du vent, les eaux de la Neva montaient.
Et je vous ai dit du Zola, hein? Eh bien, je vous ai dit n'importe quoi. C'est un extrait de L'Inondation. L'Inondation, ça a aussi été écrit par Zola. Il y a eu un titre comme ça. Mais c'était de Yevgeny Zamiatine, ce qu'on vient d'entendre. Et c'est chez Bouc d'Oreille. Vous souvenez-vous, en 1963, de ce chef-d'œuvre posthume de Lampedusa, publié en 1958, qui était devenu, grâce à l'adaptation cinématographique de Luchino Visconti, une palme d'or du Festival de Cannes en 1963, considéré comme un monument cinématographique. Je parle bien du Guépard. Le Guépard avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale et Alain Delon. Eh bien, le Guépard existe maintenant en audio. Ça prenait une voix prodigieuse pour nous lire ça. Ce sera celle de Denis Podalydès.
Derrière ce barrage de paperasse, le roi. Déjà debout pour ne pas être obligé de montrer qu'il se levait, le roi, avec sa grande face blême entre des favoris blondasses et sa veste militaire de drap grossier d'où jaillissait la cataracte violacée des pantalons tombants. Il faisait un pas en avant avec la main droite déjà tendue pour le baise-main qu'il allait refuser. « Oh, Salina, heureux les yeux qui te voient !» Son accent napolitain dépassait de loin en saveur celui du chambellan. Je prie Sa Majesté le Roi de bien vouloir m'excuser si je ne porte pas la tenue de cour. Je ne suis que de passage à Naples et je ne voulais pas omettre de présenter mes respects à votre personne. Salina, tu es fou. Tu sais bien qu'à Caserte, tu es comme chez toi. Comme chez toi, évidemment, répétait-il en s'asseyant derrière son bureau et tardant un instant à faire asseoir son hôte. « Et les petites, que font-elles ?» Le prince comprenait qu'à cet instant, il fallait placer l'équivoque en même temps Salas et Bigote. « Les petites, majesté, à mon âge et dans les liens sacrés du mariage ?» La bouche du roi riait tandis que ses mains mettaient rageusement de l'ordre dans les papiers. « Je ne me serais jamais permis, Salina. Je parlais de tes petiotes, des petites princesses. Concetta, notre chère filleule, doit se faire grande maintenant. » Une demoiselle ?
Sur la musique de Nino Rota, qui avait composé entre autres cette valse pour le film Le Guépard, qui existe donc en audio depuis le 10 juin 2020. Enfin, pour finir cette émission, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry a fait du 29 juin dernier une journée internationale, le Petit Prince Day, qui aura pour vocation de célébrer les valeurs humanistes de ce livre publié pour la première fois en 1943. Vous me connaissez, j'ai eu envie de vous faire un petit montage. Le voici.
J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Hein ?
Hein ?
Dessine-moi un mouton.
Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute, j'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur.
Les boas se'n passen la presa tota sencera, sense mastegar. Després no es poden moure i dormen durant els 6 mesos de la digestió. I vaig rumiar molt aleshores en les aventures de la selva i per la meva banda, amb un llapis de color, vaig fer el meu primer dibuix. El meu dibuix número 1. Era així.
Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu ainsi ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit «
J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. »
Mais il faut attendre.
Attendre quoi ?
Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord. Puis tu as ri de toi-même et tu m'as dit
« Je me crois toujours chez moi. » Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil.
Bonjour.
Bonjour.
C'était un jardin fleuri de roses. Le petit prince les regarda. Elle ressemblait toute à sa fleur.
Qui êtes-vous ?
Nous sommes des roses.
Oh !
Et le petit prince se sentit très malheureux.
Adieu. Adieu.
Oh, le petit prince qu'on a d'abord entendu par Gérard Philippe, version 54, le petit prince par le regretté Bernard Giraudot, enregistré en 2013, une autre très bonne d'un garçon qu'on appelle le conteur geek, entre deux une version italienne et pour finir, celle signée Odile Magnan à Espace Musique, que vous pouvez entendre sur le site même d'Espace Musique avec les voix de Guy Nadon, Michel Dumont, Jacques Languirand, Jean-Louis Millette, Monique Giroux et compagnie. Voilà tout ça pour vous dire que c'était la journée officielle du petit prince le 29 juin dernier. Merci à mes invités aujourd'hui, Monsieur Lemire, Stéphane, Jacques Lussier et Claudia Larochelle. C'était Clotilde Seille. Salut!